Pierre, chapitre 4, les versets 5 à 10. Je lis, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et j'ajoute les versets 16 à 18 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, qui dit ceci, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. » Le titre de mon message, c'est « Le bonheur retrouvé ». Le bonheur retrouvé. Alors, pour bien introduire ce message, il est bon de préciser que le bonheur dont il est question, c'est le bonheur en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de bonheur que nous pourrions éprouver, de joie que nous pourrions éprouver parce que nous réussissons à faire un beau voyage, quelque chose peut-être qui nous tiendrait à cœur. Voyager, cela n'est pas interdit. Si on a la possibilité, tant qu'à faire, faisons-le. Ou alors se faire plaisir avec un plat délicieux que nous apprécions. Ou encore regarder un beau film ou passer un bon moment avec des personnes qui nous tiennent à cœur, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Le bonheur qui n'est pas impacté par les événements de la vie. Une femme a dit à Jésus un jour, parce qu'elle reconnaissait mais que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, ce qu'elle avait pu entendre de lui, le concernant, c'était tellement merveilleux. Elle disait « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité », c'est-à-dire « Heureuse soit ta maman, heureuse soit la femme qui t'a mise au monde ». Et peut-être que si elle en avait l'âge, elle aussi, elle aurait voulu être cette femme qui avait mise au monde le Christ Jésus. Mais Jésus lui dira en Luc 11, 28, il répondit à cette femme « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde. » Donc, Jésus dit le vrai bonheur. Pour être vraiment heureux, il faut écouter la parole de Dieu, mais non pas seulement l'écouter, encore faut-il la garder. Écouter et garder la parole de Dieu. Le psaume 1, 1-3 nous dit « heureux l'homme ». L'homme qui veut être heureux, qui veut être joyeux, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. C'est ça son bonheur. C'est ce qui fait son bonheur. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme à ce moment-là un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà là les signes d'un homme, d'une femme qui est heureux, heureuse. Son plaisir est en Dieu. C'est ça son vrai bonheur. En Dieu, en Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il écoute les conseils qui viennent de Dieu, il les garde, et il les met en pratique. Sur cette terre sur laquelle nous vivons, il y avait un lieu où il y avait le bonheur, il y avait la joie, il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Même ce lieu, dans son sens étymologique, est appelé le lieu des délices. Le lieu des délices. C'était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était un jardin de délices. Genèse 2,8 nous dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » C'est donc Dieu qui avait planté ce jardin. Ce n'est pas l'homme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis lorsqu'il a créé l'homme, il a créé un jardin. Le jardin des délices. Un jardin où il y avait le bonheur, la joie et la paix. Genèse 2, 9, 10 nous dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. » Ce que Dieu avait fait était agréable à voir. Lorsque nous voyons quelque chose qui est agréable, ça nous réjouit, ça nous permet d'être heureux. Et bon à manger, lorsque nous pouvons manger des bonnes choses, des choses qui réjouissent notre âme, notre cœur, ce sont des choses qui apportent le bonheur au sein donc de notre vie. Et il est dit, il avait mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. On voit que tout ça c'était au milieu, dans le jardin d'Éden. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on voit donc que dans ce jardin, Dieu avait mis des arbres qui étaient agréables à la vue et dont les fruits étaient bons à manger. C'était donc des choses qui étaient là pour apporter le bonheur à l'homme. Source de bonheur que Dieu avait lui-même mis là à la disposition de l'homme. Et d'ailleurs, concernant Jérusalem, qui se trouve à un moment donné dans la désolation, Jérusalem a été attaquée par des ennemis, détruite, ravagée, brûlée. Et en Ésaïe 51,3, il est dit « Ainsi parle l'Éternel qui a pitié de Sion. » Il a pitié donc de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Et comme il a pitié de Sion, il dit « Il va rendre le désert de Jérusalem qui était en ruine à ce moment-là. » Il dit « Il rendra son désert semblable à un Éden. » À un Éden. Il fait vraiment donc la comparaison avec ce jardin qu'il avait créé. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Et il fait allusion à ce moment-là au jardin d'Éden qu'il avait créé. Et il dit ces ruines-là de Jérusalem, je vais les transformer, je vais les façonner, je vais les enlever et je vais faire en sorte que ce désert qui était un désert de souffrance, un désert de difficulté, un désert aride, que cela redevienne comme un Éden, comme un jardin de l'Éternel. Et regardez ce qu'il dit lorsqu'il fait cette comparaison pour dire « Je vais rendre ce désert comme un Éden, un jardin de l'Éternel. » Il dit « La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. » Pourquoi ? Parce que le désert va laisser la place au jardin de l'Éternel, le jardin des délices. Et à ce moment-là, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Voilà ce qui, à nouveau, s'entendra donc au sein de la ville de Jérusalem. Et Ézéchiel 36, 35 dit, on dira cette terre dévastée, donc là encore, on voit une situation, il y a la souffrance, il y a la désolation, il y a le malheur. Et il dit, cette terre dévastée est devenue, par l'action de Dieu qui est intervenue pour changer les circonstances, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Parce que le bonheur, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et il se plaît à changer les circonstances où nous pourrions être dans la difficulté, dans l'adversité, dans la souffrance, il se plaît à transformer donc ces circonstances afin de les transformer en un jardin d'Éden, un jardin de délices à notre avantage. Et il est vrai que lorsque nous en avons certainement fait l'expérience à plusieurs reprises, lorsque nous avons retrouvé par exemple quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose vraiment qui avait de la valeur pour nous, cela nous réjouit. Et on peut même rendre témoignage, des fois, voilà, j'avais perdu telle chose et je l'ai retrouvée. Et cela m'a procuré du bonheur. Nous avons dans la Bible, par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 3 à 10, nous avons donc la parabole, par exemple, de la brebis qui a été retrouvée. Elle était perdue, elle a été retrouvée. Mais il leur dit, cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et ça, c'est l'action que Dieu a accomplie en notre faveur par le sacrifice de Jésus-Christ parce que nous étions perdus. Et il est venu nous chercher là où nous étions, dans la boue de notre péché, séparés de Dieu. Il a donné son Fils et son Fils est venu, Jésus-Christ, qui volontairement a accepté d'être crucifié pour nous secourir. Nous étions tous des brebis perdues. Mais si Dieu a fait tant de choses, a déployé autant de puissance et tant de sacrifices pour nous secourir, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Il ne veut pas que nous soyons malheureux. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malheureux. C'est un ennemi qui fait cela, nous le savons. Mais Dieu lui-même, c'est notre bonheur qu'il veut. C'est notre joie, c'est notre bien-être qu'il veut. Et regardez ce qu'il est dit au verset 5. Lorsqu'il a retrouvé cette brebis qui était perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ça, c'est ce qui crée la joie de Dieu. Lorsqu'il retrouve sa brebis qui était perdue, la brebis qui était égarée. Et s'il est vrai que Dieu se réjouit de retrouver toutes les brebis égarées et perdues, mais il veut que nous aussi, nous ne perdions pas notre bonheur et notre joie en lui. Il n'y a rien de réjouissant pour un enfant de Dieu qui est toujours triste, toujours malheureux, toujours en train de pleurer. Parce que des fois, les circonstances de sa vie sont difficiles. Et ce n'est pas évident. Est-ce que Dieu prend plaisir à voir son enfant dans cette situation? Non. Ce que Dieu voudrait, c'est que cet enfant, dans ses difficultés, puisse trouver naturellement le secours en lui. Mais que dans ses difficultés, il arrive quand même à être heureux. Parce que le bonheur est en Christ. Le bonheur est en Jésus. Non pas dans les circonstances de nos vies. Parce que dans la réalité, s'il fallait vraiment que nous tenions compte de la réalité de la vie dans laquelle nous sommes, de cette terre, de la situation, de la vie des hommes, il y a tellement de choses qui feraient que nous serions en train de nous morfondre, en train de considérer ce qui se passe et oublier que Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut aussi que ses enfants soient heureux, comme lui se réjouit de lorsque ses brebis perdues sont retrouvées, mais il veut que son enfant aussi puisse retrouver le bonheur en lui et ne pas perdre ce bonheur. C'est la même chose pour la parabole de la drachme retrouvée. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Savez-vous qu'il y a des gens, j'ai parlé du jardin d'Éden, il y a des personnes sur cette terre, non pas forcément des anthropologues, non pas forcément des historiens, mais des personnes qui voudraient retrouver le jardin d'Éden. Il y en a qui cherchent vraiment où se situait ce jardin, et certains pensent qu'ils pourraient retrouver le jardin d'Éden. Mais pourquoi veulent-ils retrouver le jardin d'Éden? Parce qu'ils se disent que s'ils retrouvent ce jardin, là il y aura le bonheur. Parce que quand ils lisent la parole de Dieu, ou ce qu'ils ont entendu dire de ce jardin, sans même connaître la parole de Dieu, car ce ne sont pas des chrétiens, la plupart du temps. Les gens qui aspirent à trouver le jardin d'Éden, ce ne sont pas des chrétiens en général. Ce sont des personnes qui recherchent ce qu'on appelle le paradis terrestre. Et elles se disent, il y avait un jardin. On a entendu parler d'un jardin des délices que Dieu avait placé sur la terre. Et nous aimerions retrouver ce jardin parce que là, il y a le bonheur et il y a la joie. Mais nous savons, bien aimés, que nous n'avons pas besoin de chercher ce jardin. Nous savons que Dieu, après la chute de l'homme, il a placé volontairement des chérubins avec les épées tournoyantes qui empêchaient à Adam et Ève de retourner dans ce jardin. Et jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais révélé où était ce jardin et il n'a autorisé personne à y retourner. Donc ce n'est pas là la source du bonheur. C'est un fait, ça a existé, mais ce n'est pas là vers cela que nous devons chercher. Le bonheur est ici. Pourquoi le bonheur est ici? Parce qu'il y a Jésus-Christ ici. Jésus est honoré au sein de son Église. Il habite en nous par son Esprit. Et lorsque l'Église se réunit, il est aussi là, en plus d'habiter en nous par son Esprit, mais il est réellement là, parce qu'il est omniprésent. Il n'est point limité. Il n'a pas de soucis, de problèmes pour être dans un endroit et dans un autre simultanément. Le bonheur est au milieu de nous. Le bonheur est là parce que Jésus-Christ, donc, est notre Sauveur et notre Dieu. Alors, ce que j'ai lu au départ, Philippiens 4:4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Et 1 Thessaloniciens 5:16 nous dit « Soyez toujours joyeux. » Si Dieu nous dit cela, donc, il nous exprime son désir pour nous, sa volonté pour nous. Et en nous exprimant ce désir et cette volonté, il est en train de nous dire, mais c'est possible. C'est possible. Le bonheur, la joie pour les enfants de Dieu, c'est possible. Il le dit, réjouissez-vous toujours. Mais il précise, et c'est peut-être là que certains enfants de Dieu se trompent, et c'est pour cela que peut-être il n'y arrive pas, il dit « dans le Seigneur ». Ce n'est pas autrement que dans le Seigneur. C'est uniquement dans le Seigneur, Jésus-Christ. Je le répète et il insiste, dans le Seigneur Jésus-Christ, réjouissez-vous et soyez, selon 1 Thessaloniciens 5:16, toujours joyeux. Alors, il est bon à ce moment-là de nous dire « mais en quoi consiste ce bonheur finalement ? En quoi consiste ce bonheur ? Je dois me réjouir, je dois être toujours joyeux. En Jésus-Christ, je le sais. Mais pourtant, les choses ne sont pas toujours faciles. Il y a des souffrances quand même. Les enfants de Dieu aussi, ils sont soumis à des épreuves, à des difficultés. En quoi cela consiste-t-il, ce bonheur, dans la réalité ? Matthieu 28 à 30 va nous le révéler. C'est lorsque Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et comme l'a cité notre bien-aimé tout à l'heure dans sa prière, effectivement, elle était en train de rappeler ce passage, effectivement, du fardeau, du joug de Jésus-Christ qui est doux, du fardeau de Jésus-Christ qui est doux. Et il est bon, c'est vrai, lorsque nous prions, il est bon que nous puissions utiliser dans nos prières ce que Dieu lui-même a déclaré. ce que Dieu lui-même dit. Alors il dit, venez à moi. Il s'agit bien de maintenant, non pas plus tard. Venez à moi, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire dès ici-bas, dans votre vie ici-bas. Venez à moi. Ensuite, que dit-il? Il dit, vous trouverez du repos. Donc, on apprend qu'en venant à Jésus, normalement, on doit pouvoir se reposer. Ensuite, il dit, recevez mes instructions. Et cela correspond à ce que Jésus, et je l'ai cité en début, a dit en Luc 11, 28, quand il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il dit, vous recevrez mes instructions. Donc, nous devons venir à Jésus, c'est ce que nous avons fait. Dès maintenant, sans tarder, nous sommes venus à Jésus. Il dit, lorsque vous venez à moi, vous êtes censé, c'est-à-dire obligatoirement, vous êtes censé trouver en moi le repos. Donc, si un enfant de Dieu n'a pas trouvé le repos en Christ, il doit chercher pourquoi il n'arrive pas à se reposer en Jésus. Mais en venant à Jésus, on est censé trouver le repos. Vous trouverez. Il ne dit pas peut-être que. Il dit, vous trouverez. Recevez mes instructions. Le psaume 1, 2 dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, celui qui place son plaisir dans la loi de l'Éternel, son plaisir doit être dans la loi de l'Éternel et il doit la méditer jour et nuit. Et ensuite, il dit à la fin, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce bonheur dont Jésus nous parle consiste à trouver en lui le repos de l'âme. C'est ça le bonheur en Christ. Avant toute chose, avant toutes les choses qui peuvent agrémenter notre vie. J'ai parlé de faire un voyage, de manger un plat délicieux, de passer du bon temps avec des amis. Tout ça, ce sont les choses qui agrémentent la vie. Mais le bonheur dont Jésus nous parle, c'est le bonheur qui consiste pour nous à trouver en lui le repos de l'âme. C'est ça le vrai bonheur. Parce que si notre âme n'est pas en repos, si notre âme est agitée, on ne peut pas être heureux. Même quand les circonstances autour de dans notre vie seraient des circonstances heureuses, même avec des circonstances heureuses, une âme agitée ne peut pas être heureuse. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Le vrai bonheur en Jésus consiste à trouver premièrement en lui le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Un prophète de Dieu dont le ministère ne fut vraiment pas facile, ne fut vraiment pas aisé, eh bien souvent, effectivement, son âme était agitée parce qu'il était dans la difficulté. Il était en train de servir le Dieu suprême, mais l'âme agitée. Et en Lamentation de Jérémie 3, 1 à 8, par exemple, il s'adresse à Dieu. Et il dit, mais c'est Dieu qui est la source de mon malheur dans la réalité. Il dit, c'est Dieu la source de mon malheur. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Et la verge de sa fureur, de qui parle-t-il? C'est de Dieu. Il m'a conduit, il parle de Dieu. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Tout le jour, il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. C'est bien à Dieu qu'il s'adresse. Et c'est bien, il est bien en train d'accuser Dieu d'être la source de son malheur et de sa souffrance. Pourquoi? Parce que son âme était abattue. Lorsqu'on a l'âme abattue, même si on connaît Dieu, même si on loue Dieu, même si on prie Dieu, même si on parle de Dieu, mais si notre âme est abattue, on ne peut pas être heureux. C'était un homme de Dieu, un homme qui connaissait Dieu, un homme qui servait Dieu, mais son âme était abattue. Et là, il est en train de décrire sa situation de souffrance, la souffrance de son âme. Les versets 17 à 19, il dit, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Vous voyez, il n'espère plus. Son âme est abattue. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, et regardez au verset 20 ce qu'il dit. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il parle de son âme qui est abattue, qui est troublée. C'est un homme de Dieu, un serviteur extraordinaire, un prophète extraordinaire de Dieu. Mais son âme est abattue, il ne peut pas être heureux malgré le fait qu'il soit au service de Dieu. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que leurs âmes sont abattues. Même quand ils disent Jésus-Christ, leur âme au-dedans d'eux est abattue. Et ce bonheur que Dieu veut pour eux, ils n'arrivent pas à le vivre. David aussi a connu cela, l'âme abattue. Le psaume 61:2, il dit « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Je crie à toi, mais mon cœur est abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. » Il reconnaît qu'il ne peut pas avancer, il ne peut pas vaincre, il ne peut pas continuer. Pourquoi ? Parce que son cœur est abattu. Et le cœur abattu, c'est l'âme qui est abattue. Alors, comment faire pour sortir d'une telle situation pour un enfant de Dieu dont l'âme est abattue? Parce qu'il ne faut pas rester dans cette situation. Un enfant de Dieu ne doit pas rester dans une situation où son âme est abattue. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas rester dans un tel état. Comment faire pour garder le repos de l'âme malgré les événements qui peuvent ne pas toujours être agréables? C'est l'apôtre Paul qui va, c'est le Saint-Esprit qui, à travers l'apôtre Paul, va nous l'expliquer. Philippiens 4, 10, 13. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Parlons aux Philippiens. « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Et regardez ce qu'il dit. « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » L'apôtre Paul avait appris, donc ça s'apprend. Il avait appris à ce que les événements de la vie ne puissent pas perturber l'état de son âme, c'est-à-dire le repos de son âme en Christ. Il avait appris à maintenir le repos de son âme en Christ, quels que soient les événements de sa vie. Et pourtant, lorsque Dieu va l'appeler, lorsque Dieu va se révéler à lui et l'appeler au ministère, Dieu lui dira en Actes 9, 16, parlant à Ananias, un autre serviteur vers qui Dieu avait conduit Paul, il lui dira, je lui montrerai, c'est Dieu qui lui dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu avait averti l'apôtre Paul que son ministère ne serait pas facile, qu'il aurait à passer par des tribulations, des combats, de l'adversité, de la haine de la part de beaucoup de personnes, Et en 2 Corinthiens 11, 23, 29, il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul, justement, parlant de son ministère. Il dit qu'il a reçu des coups, il a été emprisonné. Il dit souvent, j'ai été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. On voit un homme dont le ministère n'a pas été simple. Son ministère n'a pas été facile. Et Dieu l'en avait averti. Dieu lui avait dit, ça ne sera pas facile. Mais à travers tout ça, il dit, j'ai appris. Il a dû apprendre, malgré cette difficulté du ministère et de la vie, il a dû apprendre à demeurer dans le repos de l'âme en Christ, quelles que soient les circonstances. Donc c'est quelque chose que nous devons apprendre, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose qui va se faire par magie. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit apprendre à garder le repos de l'âme. Et comment est-ce qu'on peut garder le repos de l'âme? 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 nous le dit. Je l'ai déjà cité, ce verset. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Les deux sont liés. Soyez toujours joyeux. Comment pouvons-nous être toujours joyeux? C'est-à-dire en demeurant dans le repos de l'âme en Christ. Comment? En priant sans cesse. En priant sans cesse. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. En priant sans cesse. On ne peut pas demeurer dans le repos de l'âme que nous donne Jésus si on n'a pas une vie de prière conséquente. L'apôtre Paul, c'était un homme de prière. C'est pour ça qu'il a pu dire, j'ai appris, quelles que soient les circonstances, j'ai appris à maintenir, à garder le repos de l'âme en Jésus-Christ. Ça, c'est une première chose, prier sans cesse. Deuxième chose, c'est toujours dans le même passage et c'est aussi lié avec le verset 16 qui dit, soyez toujours joyeux. La deuxième chose, c'est rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ésaïe 61, 10 dit ceci, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est premièrement repasser sans cesse dans notre souvenir les bienfaits et les bontés de l'Éternel. Sans cesse. Pour ne pas laisser l'amertume enlever le repos de l'âme que nous avons en Christ. Parce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Nous avons l'espérance du salut et de la gloire éternelle en Jésus-Christ. Et lorsque je suis abattu, je peux me remémorer le fait que Jésus m'a pardonné. Je suis abattu, il y a un souci dans ma vie en ce moment, mais Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus m'a dit qu'il sera avec moi tous les jours. Il me prépare même une place dans son royaume. Il me promet de revenir me chercher. Il me dit qu'il combattra pour moi. Comme nous l'avons entendu dans le témoignage de notre bien-aimé, il est notre avocat à la droite du Père. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Seigneur, c'est vrai, tu vois ma difficulté, ça me fait mal, mais je veux me réjouir en toi. Pourquoi? Parce que je veux me confier en toi. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux continuer à espérer en toi. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Et à ce moment-là, si nous arrivons à faire cela, prier sans cesse, rendre grâce à Dieu en toutes choses, nous pourrons faire ce que dit le psaume 42:5. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi, au point que je puisse perdre le repos de mon âme que Jésus est venu m'apporter? Pourquoi t'as battu? Au lieu de t'abattre et de gémir au-dedans de moi, mon âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Pourquoi t'as battu, mon âme? Si notre âme est abattue, nous ne pourrons pas être heureux, même en étant en Christ. Nous devons absolument sortir de tout état dans lequel nous sommes conscients que notre âme est abattue. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Si nous avons besoin de soutien, demandons la prière à un frère, à une sœur, au bien-aimé, au serviteur de Dieu. Demandons la prière. Ne combattons pas seuls si nous nous rendons compte que nous sommes trop faibles. Allons vers des chrétiens de confiance. Mais il ne faut pas rester l'âme abattue. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous gardions le repos de l'âme pour que nous demeurions dans le bonheur et la joie qui est en Christ. Et ceci, malgré les circonstances qui peuvent ne pas être favorables. Je termine avec le verset final, Hébreux 10, 35, 16. Et juste avant de terminer, je voudrais dire heureusement que le prophète Jérémie, justement, à un moment donné, il a eu un sursaut. Il a eu un sursaut parce qu'il était abattu. On l'a lu, son âme était abattue en Lamentations 3. Et il dit justement au verset 20, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et puis il y a eu un sursaut en lui. Et c'est ce sursaut que nous devons avoir. Mais il dit au verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Et lorsqu'il parle du cœur, c'est la même chose, c'est l'âme. Précédemment, il vient de dire que son âme est abattue. Mais ensuite, il dit, « Mais voici ce que je veux repasser dans mon âme, dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. » Vous voyez ? Dis mon âme, mon âme. Garde le repos que te donne Jésus. Repasse les bontés de l'Éternel, mon âme, à tes souvenirs. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors je termine. Bien-aimé, pour que chaque enfant de Dieu puisse garder le repos de l'âme en Jésus-Christ et être heureux. Hébreux 10, 35, 36. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ne nous retirons pas dans la présence de Dieu et ne perdons pas le repos de l'âme que nous donne Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Christ roi, le vrai bonheur, la vraie joie est en toi. C'est pour cela que c'est vrai, comme l'apôtre Paul, nous devons apprendre, viens nous aider à apprendre, à demeurer, à maintenir, à garder le repos de l'âme qui est en toi, pour que nous gardions notre bonheur en toi et que les événements qui peuvent être difficiles ne puissent pas affecter le repos de notre âme en toi, Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Secours-nous ce soir et donne-nous par ton esprit d'être fort en toi, comme a dit ton serviteur, « Je puis tout par celui qui me fortifie » et nous savons que celui qui le fortifiait, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton secours, merci pour ta parole, merci pour le repos de notre âme. Amen.